RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans Grand Angle. Si je vous dis fête de Noël, je suis sûre que beaucoup entonnent déjà dans leur tête « Il est né le divin enfant » ou encore « Douce nuit », « Les anges dans nos campagnes », voire même le traditionnel « Minuit chrétien ». Mais connaissons-nous bien l'origine de ces chants, leur histoire ? Et puis, est-ce qu'on s'arrête finalement un peu sur les paroles ou est-ce qu'on les chante mécaniquement ? Est-ce qu'on sait ce que disent ces paroles ? Je vous propose de plonger dans l'histoire et les traditions des chants de Noël avec nos invités du jour. Dominique Pierre, bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous êtes responsable éditorial ADF Bayard Musique et rédacteur en chef à Chantons en Église. Et donc je vous ai demandé de sortir de votre mal à trésor plein de chants qu'on va écouter dans cette émission. Père Sylvain Gasser, bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous êtes prêtre absomptionniste et musicologue. Et on va voir avec vous donc l'histoire et les traditions de ces chants de Noël. Les chants de Noël, histoire et tradition, nous en parlons dans Grand Angle.
Grand Angle, proposé par Faustine Fayette.
Alors ces fameux chants de Noël, eh bien c'est vrai qu'on les dès qu'on pense à Noël, on a déjà tout ce qui est commercial. C'est vrai qu'on entend beaucoup de chants dès qu'on sort dans la rue en décembre ou dans les centres commerciaux. Mais il y a de belles versions qui existent aussi à Bayard Musique. Et c'est vrai que Dominique Pierre, donc responsable d'ADF Bayard Musique, je vous ai demandé un petit peu en préparant cette émission de me sortir vos perles musicales. Et alors peut-être on va commencer par un des grands chants célèbres, c'est Douce Nuit.
Douce Nuit, donc on va écouter une version en allemand, puisque c'est la langue d'origine. Donc elle est interprétée par les Colibris, donc un ensemble de voix d'enfants de Strasbourg, et avec un accompagnement au piano assez sympathique. Vous voyez, c'est une autre façon de faire entendre aussi Douce Nuit.
J'en écoute ça. Douce nuit, sainte nuit. Alors c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de l'entendre en français, un peu moins en allemand. Mais justement, je me tourne vers le père Sylvain Gasser. De quelle origine est ce chant, en fait ? Quelle est l'histoire de ce chant ?
On va fêter ce dimanche, cette Noël 2019, le 201e anniversaire de la création de ce chant. On est né en 1818 à Oberndorf, près de Salzbourg, en Autriche. Donc c'était l'Empire austro-hongrois en ce temps-là. Et il y a un tout jeune prêtre qui vient d'arriver, il a 26 ans, Franz Josef Mohr. Et il avait écrit ce cantique, il l'avait dans sa besace quand il est arrivé pour sa première messe de Noël, qu'il célébrait d'ailleurs, il était tout jeune prêtre. Et il avait demandé à l'instituteur du village, qui s'appelle Franz Xaver Gruber, de composer la musique. Et il lui avait dit « Compose-moi quelque chose pour deux, trois voix avec un accompagnement de guitare. » C'était pas pour l'orgue à l'origine. On jouait déjà de la guitare en ce temps-là, en 1818. Et donc, Gruber va écrire cette mélodie extrêmement simple. Et le succès phénoménal de ce chant, je n'ai pas à le démontrer. Aujourd'hui, il a été traduit dans plus de 142 langues.
C'est incroyable.
Et on ne cesse, c'est vrai, non seulement de le traduire, mais aussi d'en avoir différentes versions musicales. On vient d'en entendre une, qui est un peu dans un style jazzy, proche un peu de la variété avec le piano, mais on peut avoir tous les styles évidemment qui accompagnent cette mélodie, extrêmement lente, c'est une berceuse finalement. Et cette berceuse dit bien le titre, Stille Nacht, Heilige Nacht, donc douce nuit, sainte nuit, et ça dit bien le calme, surtout la joie d'être tranquille cette nuit de Noël et de savourer la naissance de cet enfant.
Est-ce que c'est justement la simplicité peut-être et en même temps ce côté berceuse qui a fait le succès de ce chant, vous pensez ?
C'est toujours très difficile de savoir d'où vient le succès musical d'une chanson ou d'une mélodie. C'est très difficile. Il n'y a pas de recette, on le saurait depuis longtemps. C'est sans doute un peu tout cela. C'est à la fois l'adéquation entre des paroles et une musique qui colle au texte de manière tout à fait naturelle. C'est aussi une musique qui rappelle des souvenirs. La musique emprunte beaucoup la nostalgie. Donc quand on entend une berceuse, quand on entend deux, trois notes qui nous font penser à quelque chose de plutôt rassurant et de beau, bien forcément, on va le mémoriser encore plus rapidement et surtout, on aura envie de le rechanter. Ça aurait été le cas parce que cette chanson, ce cantique a été chanté une fois. On aurait jamais dû le rechanter d'ailleurs, puisqu'on composait régulièrement une nouvelle nouveauté, évidemment. Et de fait, on a redemandé à le chanter, donc d'où son succès. Et c'est assez étonnant de voir que l'église dans laquelle ce cantique a été interprété a été détruite par une crue en 1906. Et on a reconstruit au même endroit, on peut toujours visiter cette église aujourd'hui, une nouvelle église, et elle a été dédiée au Stille Nacht. C'est le seul exemple de monument ecclésial dédié non pas à un saint, mais à une mélodie. Donc ça montre quand même le succès énorme qu'avait obtenu cette mélodie. On était en 1906, donc il y a plus d'un siècle déjà.
Alors la mélodie, c'est vrai qu'elle est touchante, elle est prenante, elle se chante facilement. Alors moi, j'ai les paroles un peu en français quand même sous les yeux. Et chaque couplet, alors si je reprends simplement la dernière phrase des couplets, le premier couplet, c'est l'amour infini. Le deuxième, vers son humble berceau, en tout cas sur la traduction que j'ai, qu'il soit roi pour toujours, Jésus souffre pour toi. Et après, le sauveur éternel qu'attendait Israël. On a presque l'impression que c'est aussi une catéchèse dans les paroles.
Bien, c'est le propre d'un chant liturgique de porter aussi au cœur et à la pensée le mystère qui nous est donné de contempler. Ce sont souvent non pas forcément des traductions littérales, c'est très difficile de traduire une langue dans une autre, surtout à cause des contraintes musicales et du rythme propre à chaque langue, mais ce sont souvent des adaptations. Et puis, on le verra sans doute dans d'autres chants de Noël, régulièrement on transforme ces chants. Parfois les mots vieillissent, les phrases vieillissent, parfois il y a des mots qui n'ont plus aucun sens parce qu'on en a perdu justement l'histoire, et donc on réécrit de nouvelles paroles.
Alors on va s'intéresser à notre deuxième chant, c'est un peu notre top 50 des chants de Noël aujourd'hui. Le deuxième chant, c'est « Il est né le divin enfant ». Alors quelle version, Dominique Pierre, vous nous proposez ?
Alors là, j'ai juste choisi une version chantée par la maîtrise Gabrielle Fauré. C'est dans un album qui s'appelle « Les plus beaux chants de Noël » par des voix d'enfants. Donc une version assez classique, mais telle qu'on a envie de l'entendre.
Très bien, on écoute ça. Je suis sûre que tout le monde est en train de chanter derrière son poste de radio. Il est né le divin enfant, donc un des grands chants, un des grands célèbres chants de Noël. Alors, je me suis intéressée un peu aux paroles parce qu'il y a toujours une question quand on va chanter ce chant à l'église, par exemple, pour la messe de Noël. C'est qu'on a deux versions du refrain, deux paroles différentes. On a une version qui dit « Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. » Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Et l'autre, « Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. » Alors ça, c'est toujours lié, Père Sylvain Gasset. faire à...
C'est un excellent exemple justement de ce que je venais de dire, à savoir que résonner, faites jouer au bois, résonner musette. La musette, on oublie un peu l'instrument qui était lié au pastoral. Donc c'est un peu disparu. Alors on garde la mémoire, c'est un mot, c'est comme et la bobinette chera, vous savez, dans le chaperon rouge. Alors savoir que c'est le futur du verbe choir, ça, il n'y en a plus beaucoup qui le savent. Mais toujours est-il que c'est des mots qui fonctionnent et parfois qu'on a envie de moderniser ou parfois de rafraîchir plutôt que moderniser, de rafraîchir ces paroles. Je ne sais pas si ça apporte un plus. Je ne sais pas. En posant la question, c'est peut-être que j'en doute un peu, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je pense que on voit bien aussi que ces adaptations disent beaucoup plus le temps présent. C'est au jour de fête aujourd'hui sur Terre, on a une vision plus planétaire aussi de notre présence au monde, donc on n'avait très certainement pas au XVIIIe siècle quand ce chant a été composé.
Mais alors justement, quelle est l'histoire de ce chant?
C'est un chant dont on repère, peut-être pas forcément dans la version ici, mais dont on repère bien qu'il est, c'est une marche, et une marche qui était, c'est-à-dire assez carré comme rythme. Donc on peut entendre « Il est né le divin enfant » un peu plus martial dans son interprétation, évidemment. Ce genre de chants, on les utilise souvent dans les pastorales, c'est-à-dire dans ces représentations scéniques que l'on avait de la fête de Noël avec les instruments des bergers, les danses des bergers qui se réjouissent pour la naissance de l'enfant. D'emblée, on pense aux Santons de la Provence, à tout ce monde pastoral qui a marqué non seulement la naissance du genre du Noël. Le Noël, c'est un genre musical, c'est un chant particulier, mais aussi c'est un genre qui a eu, la pastorale j'entends, qui a eu un grand succès dans la cour du roi de France. On faisait beaucoup de pastorales. Elles n'étaient pas toutes religieuses, évidemment, mais on avait beaucoup de pastorales avec des histoires de dieux qui courtisaient les jeunes femmes ou de déesses qui cherchaient l'amour aussi auprès de jeunes hommes. Donc tout ça, c'était propre à des libations, à des fêtes ou des réjouissances.
Ça a disparu les pastorales complètement?
Aujourd'hui,
on a un
oui.
Héritage,
dans la musique classique aujourd'hui, Poulenc qu'on a encore écrite, mais c'était déjà de la musique sérieuse pour grand orchestre, pour des salles de concert. Donc on a perdu le côté plus enjoué, plus populaire de ce qu'a représenté la pastorale. Mais la fête de Noël reprend et les chants de Noël reprennent cela. Donc un genre plus rythmé qui dit la marche que l'on a, les bergers marchent vers la crèche et comme la marche des rois qui est un autre chant célèbre, on marche de bon train vers la crèche pour accueillir et contempler et adorer l'enfant Jésus.
Alors justement, si on s'interroge un petit peu aussi sur les paroles, toujours ce premier couplet que, en fait, en général, on connaît le premier couplet par cœur quasiment. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Je voudrais qu'on revienne un petit peu là-dessus parce que ces prophètes, on les a peut-être un peu oubliés. Alors, comme on le chante comme ça, gaiement, sans trop savoir ce qu'on dit, qui sont ces prophètes? Est-ce qu'on peut se rappeler un petit peu?
Il est fort probable que quand on disait cela... Dans ce temps-là, on avait une connaissance des prophètes, on savait, c'est-à-dire ce sont ces hommes qui, dans l'Ancien Testament, deviennent la bouche de Dieu, parlent au nom de Dieu et annoncent aussi la bonne nouvelle que Dieu veut pour les hommes. C'est l'histoire du salut qui est racontée. Donc 4000 ans, c'est parce que selon la tradition, tout commence il y a 4000 ans, mais nous avons effectivement les prophètes, je pense à Isaïe, qui est le prophète le plus important, qu'on entend durant tout le temps d'avant, donc actuellement, durant les messes, et Isaïe est celui qui annonce la venue, c'est le rejeton, la souche de Jessé qui portera justement le nom de Jésus, enfin qui engendrera par la suite des générations la venue de Jésus. Donc c'est ça qui est très intéressant. Donc les prophètes, c'est Isaïe, alors il y en a d'autres, hein, évidemment, il y a Ézéchiel, il y a Michée, tous ces prophètes que l'on entend durant le temps de l'Avent.
C'est vrai qu'on entend plus souvent Isaïe en général à la messe. Dominique Pierre, vous voulez rajouter quelque chose?
Non, je dirais que c'était effectivement Isaïe, c'est le livre prophétique le plus important aussi par le nombre de ses chapitres, donc c'est assez important.
C'est vrai que c'est celui qu'on connaît le mieux. Il y a toujours dans ce chant, comme pour Douce Nuit, c'est aussi un peu une catéchèse. Et quand je vois, il y a quand même des paroles fortes, parce que dans le cinquième couplet, « Il veut nos cœurs, il les attend, donnons-les-lui donc promptement. » Et à la fin aussi, « Que Jésus, roi tout-puissant, vienne régner sur nous entièrement. » C'est une prière en même temps.
Oui, c'est une prière. C'est aussi l'expression d'une sensibilité. C'est celle de dire que Dieu a tout fait pour nous. Rendons-lui ce qu'il nous a fait. Il est venu nous sauver. Il est venu nous donner son propre fils. Soyons reconnaissants. C'est des chants qui incite dans ses paroles à une attitude chrétienne qui demeure aujourd'hui. On le dirait autrement, mais c'est important que les chants nous élèvent. Il ne s'agit pas de chanter, de mettre des mots sous des musiques qui seraient très belles. Le mot doit autant nous élever que la musique. Et c'est ça qui est très important. Donc il y a une catéchèse, effectivement. Mais ça, on le dira de tout chant liturgique et de tout cantique sacré. Mmh.
Alors justement,
le gros avantage de ces chants aussi, c'est que aujourd'hui, lors d'une célébration de Noël, on a des gens qui peuvent venir d'horizons assez lointains et qui vont pouvoir entrer dans la célébration grâce à ces chants. Et c'est ce qui est magique aussi, ce qui est important justement. Ça aide les gens aussi à découvrir l'Église, à entrer dans l'Église par la démarche du chant. Et ça, c'est quelque chose de très important.
C'est vrai qu'on se dit toujours, on chante les mêmes chants à Noël, mais en fait, on a aussi envie de les chanter. En fait, on vient aussi pour retrouver cette atmosphère. Alors, on va s'élever un petit peu plus haut, puisqu'on va entendre les anges dans nos campagnes avec ce fameux Gloria. Quelle version, Dominique Pierre, vous nous proposez?
Donc, c'est tiré aussi du même album, Les plus beaux chants de Noël par des voix d'enfants. Donc là, c'est encore une maîtrise, toujours la maîtrise Gabrielle Fauré. Donc là, une version aussi des anges de la campagne. Il y en a beaucoup.
Les anges dans nos campagnes et ce fameux Gloria qu'on chante quand même à chaque messe de Noël. Ce chant, il évoque un épisode particulier, Père Sylvain Gasser. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Bien, c'est le chant des anges. C'est l'annonce qui est faite aux bergers. Les bergers sont les premiers à qui les anges annoncent la venue du Sauveur. Et les bergers, ce sont les parias de l'époque. C'est des gens pas recommandables parce qu'ils n'ont pas de domicile fixe. On n'aime pas les gens du voyage, on n'aime pas ceux qui bougent et qui ne sont pas fixés quelque part. Et donc c'est à eux, les plus pauvres, les plus éloignés de la société de ce temps, à qui est faite cette annonce. Et ils chantent ce chant, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et qui entrera justement dans la liturgie sous la forme du chant du Gloria. Donc on trouve là l'origine, en tout cas, du refrain du Gloria, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alors ce gloire à Dieu, la gloire, c'est quoi? En hébreu, le poids, la pesanteur de Dieu qui s'impose.
Est-ce qu'on parle de kabod en hébreu?
Oui, c'est ça, exactement. Donc c'est bien, c'est quelque chose de très fort. Maintenant, Dieu se fait, alors il ne faut pas se méprendre sur ce que je vais dire, mais Dieu se fait pesant, c'est-à-dire qu'il impose, il s'impose de lui-même dans toute sa force au milieu de nous. Et justement, cette force se traduit par ce qui est de plus fragile, à savoir un enfant nouvellement né. Et c'est cela que l'on chante, alors à travers ici, une musique que l'on connaît par cœur, évidemment, que l'on a un grand plaisir à chanter et à rechanter. C'est une mélodie très simple, hein. Il y a très peu de notes, il y a l'ambitus, c'est-à-dire le nombre de notes que l'on utilise pour cette mélodie est très resserré. Mais on a cette entrée en canon, c'est un principe classique en musique. On l'a entendu juste avant, d'ailleurs, dans Il est né le divin enfant, on avait aussi cela. Ça permet aussi à chacun de trouver sa voix, et assez vite, comme pour un canon, de faire naturellement de la polyphonie, ce qui n'est pas plus mal quand on pense qu'on n'est pas musicien.
Et d'ailleurs, le chant des anges, ça me rappelle qu'on aime beaucoup que ces chants de Noël soient chantés par des enfants, parce qu'on a toujours l'impression que c'est un peu les anges qui chantent.
Alors oui, alors ça, c'est plus une esthétique sonore qui ranime un souvenir. On le voit, tous ces chants traduisent l'enfance, la joie simple, la joie où il ne faut pas grand-chose pour qu'on ait l'impression d'être déjà au paradis. Pas la peine d'avoir des montagnes de cadeaux ou d'en faire trop. Une simple mélodie nous ramène très loin. La musique a toujours à faire avec la nostalgie. Elle est toujours liée à notre propre mémoire. Et donc, cela rappelle la féerie ou la magie simplement des Noëls d'antan, même si ces Noëls sont simples ou même s'ils ont pu être vécus dans un contexte malheureux d'ailleurs. Et donc, les voix d'enfants sont des voix qui rappellent aussi cette nostalgie de l'enfance. On se rappelle et se remémore toujours cela. Ce qui nous permet de dire que les Noëls de nos enfants ont été évidemment éblouissants et rien ne les remplacera.
Et oui, Noël est toujours lié à notre enfance, hein. On va s'intéresser à un autre tube de Noël. Alors peut-être dans un autre registre, Minuit Chrétien. Minuit Chrétien, Dominique Pierre, là c'est un autre groupe que vous avez choisi.
Oui, alors c'est un, là c'est un, l'ensemble vocal L'Alliance, donc qui a enregistré beaucoup de chants liturgiques ou de chants pour la liturgie, dans un album qui s'appelle Les Noëls de mon enfance. Et donc c'est un chant traditionnel, mais Sylvain va nous parler de son histoire après qu'on l'ait écouté.
Grand Angle, Faustine Fayette.
Minuit Chrétien, un des grands chants des grands tubes de Noël. C'était l'ensemble vocal L'Alliance et nous parlons des chants de Noël avec le père Sylvain Gasser et avec Dominique Pierre à Bayern Musique. Minuit Chrétien, il y a une grande histoire de ce chant.
Oui, alors déjà, moi je dois vous avouer que j'aime beaucoup, beaucoup ce chant. Quelles qu'en soient les polémiques, on va le voir tout de suite, c'est un très beau chant, c'est une très belle mélodie. Et ce chant a failli d'ailleurs ne jamais voir le jour, puisqu'on est en 1843, on est à Roquemort, c'est dans le Gard, et le curé demande à un négociant en vin qui est féru d'histoire locale et qui s'appelle Placide Capot, il lui demande d'écrire les paroles d'un cantique. Or cet homme, c'est un anticlérical, franc-maçon, mais enfin ils étaient amis et il accepte de lui écrire quand même un chant religieux. C'est assez étonnant. Et donc ce chant devait être composé par Adolphe Adam, qui est un grand compositeur parisien et qui venait dans le sud se reposer. Et cet homme donc va écrire un chant typique de l'opéra d'époque. C'est Noël à l'opéra comique. Et donc on a ces accents. D'ailleurs que l'interprétation ne montre pas. C'est une interprétation très très simple ici. Mais on peut avoir une interprétation beaucoup plus musclée où on donne beaucoup plus de pathos. Hein, c'est pas difficile. Je pense que la mélodie le permet en gonflant certains mots, en gonflant une grande respiration. Alors on a pu très vite tomber aussi dans la caricature de ce chant, parce que ce chant est devenu tellement célèbre, mais comme l'étaient finalement les chants de l'opéra comique. L'opéra comique, c'est aujourd'hui l'Olympia, c'est Bercy, c'est-à-dire tout le monde allait là-bas et écoutait un opéra nouveau, et on sortait de l'opéra avec la mélodie qui nous avait plu dans cet opéra. Si Minuit Chrétien avait été écrit à l'opéra, ça aurait pu être un chant d'amour, ça aurait pu être un chant de passion. On a traité ce chant de chant d'ivrogne aussi, c'est Debussy qui le qualifie ainsi, tout simplement parce que tout le monde le gueulait dans la rue, excusez-moi, mais enfin, c'est à peu près ça, et c'est pas difficile. Très vite, la beauté de ce chant peut devenir très caricaturale. Donc, et ce chant n'a pas perdu de son émotion, son impact émotionnel. Je pense que nos auditeurs l'ont bien perçu. Dès qu'on entend dans le calme et le recueillement ce chant, c'est plus encore que la douce joie. Oui, il y a un transport. Et l'opéra, le propre du chant de l'opéra, c'est de nous transporter dans des émois passionnels, évidemment très forts.
Alors, il y a eu une polémique.
Et oui.
Alors, elle est liée à quoi, cette polémique?
Alors, la polémique est liée aux paroles de la première strophe que je rappelle, le jour où Adam, l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tache originelle et de son père arrêter le courroux. Alors évidemment, cela voudrait dire que finalement Dieu fâché a envoyé son fils pour nous punir. Or, tout à fait contraire à la théologie, c'est par amour qu'il envoie son fils et c'est pas pour nous corriger. Et son courroux, la naissance du Christ n'est pas le fruit d'un courroux, c'est-à-dire d'une colère. Là, il faut considérer que quand on n'a aucune culture religieuse, ce qui était le cas de Placide Capot, ben évidemment ça déborde très vite.
Petite erreur théologique, mais qui a été toujours chantée,
c'est toujours pareil, parce que même quand il y a des erreurs, on a beau corriger après, il y a beaucoup de versions avec des versions corrigées de ce texte, on revient toujours au texte original, parce que c'est ainsi que la musique a été pensée et conçue. Et mine de rien, la musique colle aux mots. Alors, j'ai lu sur différents sites canadiens, les Québécois en tout cas, sont très forts là-dessus pour vouloir corriger toutes les erreurs théologiques qui sont très sérieux. Mais rien n'y fait, la tradition est plus forte que tout.
Chanter.
Et bon, c'est pas très grave, il suffit, ça ouvre une discussion comme on en a une aujourd'hui. Mais en tout cas, Noël n'est pas le fruit d'une vengeance accomplie, ça c'est très important.
Ouf, on est rassurés.
Oui.
Autre chant classique, Peuple fidèle, aussi connu sous son nom latin, Adeste Fidelis. Alors, une version des trésors du studio SM. Qu'est-ce que c'est les trésors
du studio SM, c'était en 2014, on avait sorti une collection pour c'était le 40e anniversaire de Studio SM. Et donc, il y a eu un CD, un album Noël. Et donc, avec différentes versions qui valent le coup d'être entendues. Et notamment, cette version de Peuple fidèle, toujours par l'ensemble vocal L'Alliance.
Fidèle, donc par l'ensemble vocal Alliance. Tous les chants qu'on a évoqués jusqu'à présent, ils sont tous à peu près du 19e, 18e siècle, 17e aussi.
La grande période, c'est fin 17e et 18e siècle, la grande période des Noël.
Alors, ce chant qui est très connu aussi pour avoir été chanté beaucoup en latin, est-ce qu'il est de la même période ? Parce que ça donne l'illusion qu'il est plus ancien, en fait.
Non, bon, on a chanté en latin jusqu'en 1966, selon la liturgie. Voilà. Donc, on a longtemps chanté latin et c'est le propre de la liturgie catholique romaine. Et de fait, ce chant traduit la grande bataille qu'il y a eu en Angleterre, parce que son origine est anglaise, qu'il y a eu entre les partisans du roi catholique, on est au XVIIIe siècle, pardon, du roi catholique Jacques II, mais qui ne le saura pas, avec la maison de Hanovre. Et c'est la maison de Hanovre qui gagnera, c'est-à-dire la rivalité entre les catholiques et les anglicans. Et l'auteur de cette musique s'appelle John Francis Wade, et c'est lui qui est partisan de la liturgie catholique latine, qui écrit ce chant en latin Adeste Fidelis. Et cette musique sera publiée en France à Saint-Sulpice, à Paris, en 1815. Et c'est à partir de Saint-Sulpice que ce chant sera popularisé et deviendra lui aussi très populaire. Une sorte de marche, là encore, qui est quand même empreinte. On voit bien l'influence des chorales anglaises, par exemple, des grandes chorales anglaises, que ce soit de King's College, Oxford, le St. John's College de Cambridge, on voit bien cette grande tradition de ce chant ample, solennel, qui avance à pas mesurés. Et c'est le propre de cette très belle mélodie. Mais il y avait aussi des indices qui montraient, et on ne le soupçonne pas, même dans le texte latin, politique qui s'y cache. On dit en latin « Natum videte regem angelorum ». Vous y verrez le roi des anges qui vient de naître. Angelorum, vous enlevez le « e », ça fait anglorum. Vous y verrez le roi des anglais naître. Et vous voyez qu'à travers ce... Et donc tout ça, c'est décodé. Et paroles cachées. Alors aujourd'hui, on en rit, on ne le mesure pas. Mais les partisans de Jacques II, eux, savaient très bien ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient à ce moment-là.
On n'imagine pas du tout qu'il y avait ça derrière. C'est un chant qui est aussi cité par Paul Claudel quand il parle de sa conversion à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il est bouleversé par le Magnificat et l'Adeste Fideles.
Oui, c'est un chant très ample qui a besoin du grand accompagnement d'orgue. Et on a la chance quand même en français d'avoir une très belle traduction française. Elle est de Claude Rosier, un permariste. Il l'a écrite, cette traduction, en 1949. Donc ça va faire maintenant 70 ans qu'on a ce texte français. Et c'est vraiment un très beau texte qui, d'emblée, est un classique.
Un autre classique. On continue notre itinéraire parmi ces chants de Noël. Venez, divin Messie. Peut-être un chant un peu plus d'église, je ne sais pas, vous me direz. Alors, quel est dans vos trésors, Dominique Pierre, qui chante ce chant?
Alors là, on est plutôt aussi sur... mais Sylvain va en reparler, on est plutôt sur un chant d'avant, même si on est à la frontière entre l'avant et le temps de Noël. Et donc, c'est encore l'ensemble Vocal Alliance qui est dans un album qui s'appelle Les célèbres chants d'église avant Noël, le volume 1.
RCF, Faustine Fayette.
Venez, divin Messie. Alors, ce chant proviendrait d'une mélodie composée par Marc-Antoine Charpentier.
Oui,
Père Sylvain Gasser, est-ce que c'est confirmé?
Oui, c'est confirmé. Marc-Antoine Charpentier a écrit une messe de minuit qui est célèbre et elle a l'originalité de prendre des thèmes très populaires, de mélodies profanes aussi. Et il a emprunté 11 mélodies différentes, dont celle-ci, qui est, à l'origine, c'était « Laissez paître vos bêtes ».« Laissez paître vos bêtes », avec cette même rythmique. Et c'est cette mélodie qu'il transforme en chant de Noël et qui ensuite trouvera refuge dans la liturgie de la messe et dans le chant populaire et des cantiques populaires de Noël. Alors, Noël, plus précisément, un chant d'avant, c'est-à-dire c'est un chant de l'attente. L'avant, c'est la période qui précède Noël et qui est une période d'attente. Nous attendons et nous nous préparons à accueillir le divin Messie, comme il est dit ici. Et vous avez aussi dans la structure littéraire, vous avez un dialogue qui se passe entre le chœur, le soliste, comme on le trouve dans la tradition des jeux liturgiques. Un jeu liturgique, c'est une représentation scénique théâtrale d'un mystère liturgique qu'on jouait souvent sur les parvis des cathédrales et des églises. Et il y avait là beaucoup de chants dansés. Là, vous avez un rythme ternaire qui est assez balancé, qui est une danse légère, tranquille, mais qui permet aussi à la musique d'avancer calmement. Nous avons entendu là une très belle version. C'est vrai qu'il n'en rajoute pas. Je pense que ce chant n'a pas besoin qu'on en fasse des tonnes. On laisse simplement la musique se laisser porter par son propre rythme dansant. Et vous voyez aussi que c'est un chant français qui utilise le vouvoiement. On parlait à Dieu avec un vouvoiement très prononcé, évidemment. Et là, il est impossible de le traduire. « Viens, divin Messie », il vous manque une syllabe. Je pense que ce chant a été écrit en disant « Venez, divin Messie », mais gardons évidemment cette manière de parler, parce que là encore, l'enchantement vient de cette belle rencontre entre des paroles d'origine et puis une musique qui lui fait complètement corps.
Et les paroles, elles ont été quand même un peu remaniées, puisque je crois qu'elles ont été elles ont été à nouveau validées par les évêques pendant le Concile Vatican II. Alors,
oui, je ne sais pas s'ils se sont occupés directement de ce chant-là.
Pas pendant le Concile.
Suite
au Concile, on va dire.
C'est-à-dire, quand il y a eu la grande réforme liturgique, évidemment, on a voulu vérifier si les cantiques que l'on chantait auparavant restaient conformes. C'est-à-dire, on voyait bien que dans les chants, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas très sérieuses. tant aujourd'hui qu'avant d'ailleurs, c'est toujours pareil, mmh. Il y a toujours des chants de piètre qualité et d'autres de très bonne qualité, ça n'a jamais bougé, et il y a eu quelques adaptations, mais on a gardé le vouvoiement parce qu'on ne pouvait pas faire autrement de toute façon, et il est vrai qu'on a là un très beau chant d'attente qui touche un peu à quelque chose de très intériorisé, c'est un chant de grande douceur, de grande paix intérieure déjà.
Alors on a évoqué plusieurs tubes jusqu'à présent. Je voudrais maintenant évoquer peut-être deux chants qu'on a que Dominique Pierre, à Bayard Musique m'a confié. Alors il y a Aujourd'hui dans notre monde et La voici la nuit de Dieu. Alors peut-être ce sont des chants qui sont moins connus. Peut-être Dominique, vous pouvez nous parler de Aujourd'hui dans notre monde.
Oui,
pourquoi l'avoir choisi ?
Pour l'avoir choisi parce que là, on a surtout écouté des chants qui sont plus populaires. Et là, j'ai fait le choix de chants peut-être plus liturgiques. C'est-à-dire, quelle est la différence ? C'est que là, on essaie, par le texte et la musique, d'entrer davantage dans le mystère qui est célébré. Et notamment, j'ai pris Aujourd'hui dans notre monde parce qu'il commence. Alors, Sylvain parlera de sa mélodie parce que c'est une très ancienne mélodie de Noël hein, qui nous vient de l'univers du grégorien. Mais il y a ce mot aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose de très, très important dans la liturgie. C'est-à-dire que, quelquefois, on entend, ou les gens pensent, Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. C'est-à-dire, Jésus est né une fois, et puis donc, on fête, on commémore cette histoire. Mais non, la liturgie nous dit autre chose. Elle nous dit, aujourd'hui, Jésus est né. Hein, aujourd'hui, le salut s'accomplit. Hein, la liturgie est toujours un moment où il y a cette actualisation du mystère. Aujourd'hui, le Christ nous parle par sa parole. Hein, aujourd'hui, il se donne à nous par son corps et par son sang. Ça, c'est la liturgie. C'est cette actualisation entre une histoire qui a été vécue, ce que nous vivons, notre lien avec tous ceux qui nous ont précédés, qui sont au ciel, et puis on tourne nos regards aussi vers l'Église à venir.
Se remettre en présence.
Voilà, tout à fait. Hein, et ce très beau texte de Didier Rimaud, bien, j'y dis justement tout cela en s'inspirant évidemment du prologue de Saint Jean. Donc c'est un très très beau texte. Vous voyez, vous allez retrouver les grandes thématiques du prologue de Saint Jean. Hein, voilà, le Verbe s'est fait chair.
Le Verbe hein,
il est venu pour parler. Il était auprès du Père. Il vient pour parler justement au nom du Père. Il est la lumière du monde. Hein, il nous donne justement de devenir enfant de Dieu. Hein, ça, c'est vraiment tout le thème du prologue de Saint Jean, dont s'est inspiré Didier Rimaud pour écrire ce très très beau texte sur une très très belle mélodie.
Alors aujourd'hui et maintenant, on va écouter Aujourd'hui dans notre monde. Aujourd'hui dans notre monde, donc une des sélections des chants peut-être un peu moins connus, mais qu'on a plaisir à découvrir aujourd'hui sur RCF dans Grand Angle. Autre chant, Dominique Pierre, que vous nous faites découvrir, c'est La voici la nuit de Dieu.
Alors la voici, La Nuit de Dieu, c'est un texte de Claude Duchesneau sur la musique d'un choral anglais. Alors, c'est un chant qui est relativement connu quand même, qu'on chante plutôt dans les paroisses. Hein, ce qui est intéressant, c'est aussi un petit peu comme pour la veillée pascale, cette focalisation sur la nuit. On part de l'expérience que l'on a de la nuit, toute nuit, hein, et puis après on dit cette nuit. Hein, donc toute nuit revit dans le silence le secret qui fit le premier jour, évocation de la nuit de la jeunesse. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'est hein, la naissance de la nuit. Et puis cette nuit nous chante la naissance où Dieu met au monde son amour. Donc il y a tout un jeu où en fait on part de la Genèse pour aller même jusqu'à l'Apocalypse, puisque le dernier couplet parle et dit « Cette nuit, la fête qui commence chantera jusqu'au-delà des temps. Hein, » Donc on est vraiment pour montrer que cette fête de Noël, eh bien, elle touche toute notre histoire et même elle touche au-delà de notre histoire, elle nous conduit déjà, elle lève notre regard vers le Christ qui vient, qui est venu et qui viendra.
Père Sylvain Gasser, cette nuit ou ce Noël qui est actualisé, qu'on vit aujourd'hui, c'est un des grands messages aussi de Noël qu'on essaye de faire passer.
Oui, c'est tout le mystère qui se déroule le temps d'une nuit et du jour qui suit, c'est tout le mystère de l'incarnation. L'Église n'a pas célébré toujours Noël, c'est la fête la plus tardive du calendrier liturgique. La première fête, c'est bien sûr Pâques, l'annonce du ressuscité, et la Semaine Sainte et le temps de Carême qui lui précède. Et Noël est venu très tardivement. Mais très tôt, il y a eu, aussi bien sur le lieu même de la crèche à Bethléem, il y a eu beaucoup de pèlerinages. Puis la volonté aussi de faire des processions durant ces longues nuits d'hiver pour rappeler qu'on est au solstice d'hiver, c'est un nouveau soleil vient, c'est donc un soleil de justice, comme il est dit chez le prophète Michée. Et c'est aussi la venue du Seigneur que l'on met en miroir de ce nouveau soleil qui vient parmi nous. Et là, à ce moment-là, il y a eu de petit à petit la volonté de bien inscrire la fête de Noël avec son cycle qui le précède, à savoir le temps de l'Avent, de le mettre au début de l'année liturgique.
La voici, La Nuit de Dieu. Donc on va écouter l'interprétation que vous nous proposez. C'est l'école maîtrisienne régionale de Bourgogne, je crois.
Oui, tout à fait, à Dijon.
La voici, La Nuit de Dieu. C'est un chant qui donne envie de chanter. Hein. On a envie de fredonner tout de suite.
Ah oui, il y a beaucoup d'entrain, beaucoup de joie. C'est à la fois paisible, c'est lumineux. Moi, c'est un chant que j'aime beaucoup.
Alors pour tous ceux qui voudraient avoir la partition, je précise que tous ces chants, on peut les télécharger, les acheter, les commander.
On peut le trouver. Donc si on peut donner la cote, c'est le chant F256, La voici, La Nuit de Dieu. On peut le trouver soit sur Bayard Musique ou sur le site Chantons en Église, par exemple.
Alors, et pour tous ceux qui peut-être préparent la messe de Noël à venir, on va parler de cette belle et grande liturgie des messes de Noël. Alors, je vais me tourner vers le père Sylvain Gasser, donc prêtre assomptionniste et musicologue. Vous nous avez parlé des traditions des chants de Noël. Maintenant, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette liturgie, parce qu'on a coutume de dire qu'il existe plusieurs Alors, messe de Noël, mais en fait, c'est mal dit. Il y a quatre types de messes à Noël. Est-ce qu'on peut les redire un peu, la messe de la veille, la messe de la nuit? Alors, voilà.
Il y a, à Noël, il y a trois messes. Le jour de Noël est le seul jour de l'année qui a trois messes. La messe de nuit, la messe d'aurore et la messe du jour. La messe de la veille appartient au 24 décembre, elle n'appartient pas au 25. Et donc c'est le seul jour de l'année qui a trois messes. Vous avez Pentecôte qui en a deux, et autrement, Pâques n'en a qu'une. Vous avez le Vigile Pascal, mais c'est dissocié de la messe même du jour. Mais vous avez ici trois messes. Alors c'est très étonnant de voir pourquoi y a-t-il ces trois messes-là. Alors c'est saint Thomas d'Aquin qui va faire un commentaire très intéressant pour expliquer, notamment d'un point de vue théologique, pardon, le sens de ces messes. Il va dire qu'elles sont liées à la triple naissance du Christ. La messe de nuit, on ne dit jamais messe de minuit, hein, c'est la messe de nuit.
En liturgie. Oui, minuit, c'est la messe c'est un peu populaire qu'on dit entre nous.
Enfin, c'est par habitude qu'on l'a dit, mais jamais la messe ne doit obligatoirement commencer à minuit. Bon, ça, c'est des habitudes très récentes. Donc, la messe de nuit traduit la naissance éternelle du Christ, mais Christ est encore caché. Le Christ n'a pas tout livré de sa naissance. C'est pour cela qu'on célèbre cette naissance éternelle la nuit. Tout n'est pas encore révélé. Ensuite, la messe d'aurore, c'est la naissance selon le temps dans les âmes. C'est une naissance intérieure. C'est au moment où l'étoile va commencer à luire dans le ciel. Ça, j'emprunte à la deuxième épître de Saint-Pierre. Et c'est le temps d'une naissance, mais qui n'est pas encore tout à fait aboutie. Et enfin, vous avez la naissance du Christ dans son corps lui-même. Il devient vraiment l'un d'entre nous. Le Verbe s'est fait chair. Et ça, c'est en plein jour que la réalité visible apparaît. Et c'est donc la messe du jour. C'est là un commentaire théologique, bien sûr, qui est très beau et qui est très puissant, évidemment. Si nous voulions être des pratiquants réguliers, on irait trois fois à la messe ce jour-là. Bon, tout le monde, la messe d'aurore, je reconnais qu'à part les monastères, je ne connais pas beaucoup d'endroits où
peu
elle
de paroisses
est...
qui proposent
mais
la
très,
messe
très,
d'aurore.
Peut-être un peu plus
ces derniers temps, mais...
La messe d'aurore, je ne le crois pas. C'est vraiment dans les monastères qu'on a gardé cette triple naissance traduite par une triple messe de liturgique.
Dominique Pierre.
Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que Sylvain parlait du calendrier, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que le calendrier liturgique et notre calendrier actuel, ont des petits décalages. C'est-à-dire que quand tu disais Sylvain, c'est lié au 24, mais en fait, en liturgie, c'est comme dans la Bible. Le jour commence la veille au soir.
Hein. Oui.
Et donc, c'est il y eut un soir, il y eut un matin, déjà, dans la Genèse. Hein. Et puis, vous allez retrouver ça. Donc, c'est dans la Bible. Hein, le jour commence la veille au soir. Et puis, on retrouve ça dans la liturgie. C'est-à-dire que, généralement, quand vous avez une grande fête liturgique, eh bien, les vêpres de la veille commencent déjà la fête. Vous avez ça pour la Pentecôte, vous avez ça pour Noël, vous avez ça pour Pâques, évidemment, pas pour Pâques, avec la veillée pascale, et puis pour toutes les grandes fêtes, là, Saint-Pierre, Saint-Paul, etc.
Et certaines communautés, d'ailleurs, ça fait référence à une autre fête, à Pâques, mais les vêpres de la résurrection, par exemple, tous les samedis soirs, on refête Pâques, en fait, on fête le dimanche, donc c'est déjà fêté dimanche, quoi. Dans cette liturgie des messes de Noël, on a coutume aussi d'avoir cette procession de l'enfant Jésus, du santon qu'on va aller déposer à la crèche dans l'église. Est-ce que ça, c'est une tradition moderne? Est-ce que c'est plus ancien? Est-ce que la crèche, d'ailleurs, dans les églises, c'est depuis combien de temps?
Il s'agit là de l'histoire de la représentation de la crèche. On a commencé très tôt à le faire à partir du moment où on allait en pèlerinage à Bethléem. C'était là-bas que tout commençait. Et ça s'est développé avec la crèche de Saint-François d'Assise. En 1223, c'est à Greccio, il décide, il demande l'autorisation pour cela, de représenter la crèche à l'intérieur même de l'église, alors que les jeux scéniques et théâtraux étaient interdits. Et donc, il a demandé l'autorisation de pouvoir faire figurer une crèche.
Audacieux.
Mais il faut savoir que dans cette crèche originale, ce n'était pas une crèche vivante telle qu'on l'entend aujourd'hui. Il y avait quatre éléments. Il y avait la mangeoire, le foin, l'âne et le bœuf. Vous n'aviez pas Marie, vous n'aviez pas Joseph et vous n'aviez pas l'enfant Jésus.
Mais par contre, il y avait l'âne et le bœuf.
L'âne et le bœuf, parce que selon Isaïe, chapitre 1, on dit bien que ces deux animaux reconnaissaient leur maître, et reconnaissaient le Rédempteur. Et c'est très intéressant, parce qu'on se dit, mais pourquoi, justement, dans une crèche, il n'y a même pas les trois concernés, Joseph, Marie et bien sûr l'enfant Jésus. Simplement parce que sur la mangeoire, Saint François célébrait la messe et le Christ, l'enfant Jésus, c'est le Verbe qui est proclamé, la parole de Dieu qui est proclamée. C'est profondément théologique. Qui c'est très juste. Et après coup, évidemment, on a voulu mettre tous les éléments du décor. Et aujourd'hui, il y a une surenchère où on a tout, on a les santons. Et quand on fait un spectacle vivant, alors on met tout ce qu'on peut trouver. Mais c'est une manière aussi de dire que Noël concerne tout le monde et toutes les zones de notre vie. Et donc, il y a eu la tradition d'apporter l'enfant Jésus, de le faire figurer. Mais il ne faut pas oublier que Saint François d'Assise n'avait pas fait figurer les trois personnes de la Sainte Famille.
Ça me donne envie quand même de vous faire écouter un des autres grands classiques qu'on chante souvent, Entre le bœuf et l'âne gris. Et vous m'avez proposé, Dominique Pierre, une version chantée par l'ensemble vocal L'Alliance, hein, parce qu'ils chantent très bien, donc on a plaisir à les écouter. On entend un petit extrait.
Entre le bœuf et l'âne gris.
Et l'âne gris, un des grands classiques aussi des chants de Noël. Les chants de Noël qu'on évoque aujourd'hui sur RCF dans Grand Angle avec Dominique Pierre et le père Sylvain Gasser. Alors on touche bientôt à la fin de cette émission, mais quand même j'ai une grande question à vous poser avant qu'on se quitte. Quel est votre plus beau souvenir de Noël? Et alors peut-être plus beau souvenir de Noël en musique, puisqu'on parle des chants aujourd'hui, des chants de Noël. Alors Dominique Pierre.
Oh, mais je crois que c'était tout simplement une célébration dans ma paroisse, où on avait rassemblé une vingtaine de musiciens, et on avait bien préparé, bien travaillé, et donc il y avait des jeunes et des moins jeunes qui participaient à cette célébration, et ça, on sentait que à la fois ceux qui jouaient et puis ceux qui, et toute l'assemblée avait été très, très, très heureuse de tout ça. Donc, participer à tout ça, pour moi, ça avait été vraiment une grande joie.
Noël, ça rassemble les générations.
Voilà,
aussi.
Tout à fait.
Père Sylvain Gasser.
Moi, c'est un enregistrement. C'est un disque qui a été produit, réalisé en 1968. C'est un chanteur, c'est un enfant qui a 12 ans et qui était célèbre. Il était né en Hollande, mais dans la région d'expression allemande. Et ce disque-là a eu un retentissement incroyable, le disque de Noël, puisqu'il s'est vendu à 5 millions d'exemplaires, comme imaginez ce que c'est. Et il a rendu célèbre et riche aussi ce jeune enfant. Il a une voix prodigieuse. Il reprend tous les tubes qu'on a entendus en allemand, parce que pour moi Noël est lié à la langue allemande, puisque je viens d'une région où finalement on mêle les deux langues, mais l'allemand est très précieux évidemment. Et pour moi c'est les plus beaux arrangements de ces grands cantiques populaires. Et encore aujourd'hui j'écoute au moins une ou fois, sinon deux, ce disque à chaque Noël, parce que ça me rappelle évidemment les mois que j'ai eu quand j'étais enfant, parce que c'était une voix superbe. Cet homme ensuite a fait un peu de musique, puis il a complètement changé par la suite dans sa carrière, mais ses disques, comme il l'a fait par la suite. Il a gardé une voix d'enfant quasiment jusqu'à 14 ans. Donc ça lui a permis de faire beaucoup d'enregistrements qui ont eu un succès mais phénoménal en Allemagne et en Hollande. Donc il s'appelle Heinche et c'était les disques de Noël de Heinche.
Voilà, on va tous chercher sur Internet
pour trouver
cette voix d'enfant. Nous évoquions les chants de Noël, l'histoire et les traditions de ces chants de Noël. Merci beaucoup à Dominique Pierre d'ADF Bayard Musique. Alors je rappelle qu'on peut donc commander plusieurs CD, plusieurs albums autour de Noël. Donc sur bayardmusique.com, on peut acheter les partitions, acheter les MP3.
Acheter les partitions, trouver les MP3, si besoin, acheter par correspondance. Et puis sinon, on trouve aussi dans toutes les bonnes librairies et disquaires religieux.
Et puis merci beaucoup, Père Sylvain Gasser. Je vais vous poser une dernière question parce qu'on va se quitter sur la marche des rois, qu'en général les enfants aiment beaucoup chanter. Une petite introduction de ce chant sur la marche des rois. Là, on est déjà vers les rois mages. Là.
Oui, et cet extrait de l'Arlésienne, qui est une suite symphonique de Georges Bizet, compositeur du sud de... Enfin, qui a beaucoup été marqué par le sud de la France. Et cette mélodie a été sortie de son contexte pour en faire la marche triomphale, royale, le train des rois, comme on disait, pour marquer justement l'arrivée des mages près de la crèche.
on se quitte en musique. Merci à tous, très bonne soirée sur RCF et bonne préparation à ce temps de Noël. Bonsoir.
Merci, bonne soirée.